Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le patrimoine est-il le parent pauvre de la politique culturelle ? Si ça continue à ce rythme, ce n'est pas une, mais deux cathédrales qui pourront être reconstruites sur l'île de la Cité à Paris. 700 millions d'euros déjà de promesses de dons pour Notre-Dame. Un tel mouvement de solidarité est inédit, a fortiori pour restaurer un monument du patrimoine national. On peut d'ailleurs s'étonner que de telles sommes soient atteintes pour un seul édifice, en aussi peu de temps, alors que le patrimoine français souffre depuis des années d'un sous-financement. Le ministère de la Culture ne lui consacre que 3% de son budget, une paille au regard des besoins d'entretien et de rénovation des 44 000 bâtiments inscrits ou classés. C'est pour tenter d'y remédier et de mobiliser le public que le loto du patrimoine avait été imaginé. Le premier tirage a permis de collecter 22 millions d'euros. Un deuxième est prévu le 14 juillet. Des sommes qui paraissent désormais assez dérisoires au regard de celles qui sont en train d'être collectées pour Notre-Dame de Paris. Alors le patrimoine est-il le parent pauvre de la politique culturelle ? Pour en discuter, trois invités ce soir dans cette émission, vous l'avez compris, un peu plus courte que d'habitude. Olivier de Rohan-Chabot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de la fondation La Sauvegarde de l'Art Français, qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui œuvre à la préservation du patrimoine, en particulier religieux. Et vous êtes par ailleurs l'ancien président de la Société des Amis de Versailles. Pour discuter avec vous, Jean-Paul Siré, bonsoir.
Bonsoir.
Co-directeur de l'Observatoire de la Culture de la fondation Jean Jaurès. Vous êtes passé notamment, j'ai vu sur votre CV, par le ministère de la Culture, le Centre des Monuments Nationaux.
Tout
et vous êtes
fait.
Par ailleurs maire adjoint de la ville de Nanterre. Vous y êtes en charge des questions, justement, de patrimoine. Et puis notre troisième invité, il est au téléphone depuis le Finistère et c'est Jean-Jacques Ayagon. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ministre de la Culture et de la Communication sous les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Vous avez, présidé l'établissement public du musée du domaine de Versailles. Vous êtes directeur général de la collection Pinault. Alors, je voudrais qu'on commence par ce pointage sur les promesses de dons pour rebâtir Notre-Dame. On en est donc à environ 700 millions d'euros. Est-ce que vous êtes surpris les uns et les autres qu'une telle somme ait été atteinte et qu'elle l'ait été aussi rapidement, Olivier de Rohan-Chabot?
Qu'on puisse réunir 700 millions en quelques heures est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ne pas être surpris serait surprenant. Ça, c'est évident. Mais je crois que, j'ai écouté ce que vous venez de dire, le problème de l'avenir du patrimoine n'est pas d'abord un problème d'argent. L'argent est un problème, j'allais dire, secondaire. Ça nous le montre. Le véritable problème, c'est l'amour et l'intérêt que les Français portent leur patrimoine.
Enfin, c'est pas seulement avec de l'amour qu'on va pouvoir rebâtir Notre-Dame.
Si, la preuve, si, qu'est-ce qui a fait qu'il y a 700 millions qui arrivent comme ça ? C'est parce que les Français ont été bouleversés. C'est un endroit qu'ils aiment et on veut conserver ce que l'on aime.
Jean-Jacques Ayagon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier de Rohan-Chabot ?
Écoutez, Olivier de Rohan n'a pas tort. Je crois que l'épreuve que vient de traverser notre pays à travers le terrible incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris montre l'attachement, a révélé l'attachement des Français, au-delà d'ailleurs de la France, du monde entier, au patrimoine de notre pays, et plus particulièrement à cette cathédrale. Je crois que si en quelques heures on a pu réunir des crédits aussi importants qui, je l'espère, pourront rapidement concourir à la restauration de l'édifice, c'est parce que ce monument est un monument aimé, c'est un monument dans lequel les Français se reconnaissent. Vous savez, chaque année, au moment des journées du patrimoine, et Jean-Paul Siré le sait bien également, on voit des millions de Français et de touristes qui se trouvent en France à ce moment-là se presser vers les monuments qu'on ouvre à leur visite. Ce jour-là, c'est le signe manifeste de cet attachement de chacun d'entre nous au patrimoine ancien, au patrimoine plus récent, au patrimoine modeste, au patrimoine plus célèbre comme le château de Versailles. C'est de tout cela que nous sommes faits et c'est cela que les Français aiment.
Alors on verra bien ce qu'il adviendra de ces promesses de dons, mais on peut imaginer en tout cas qu'elles vont continuer à augmenter. Quelle sera la somme au final qui sera récoltée? On ne sait pas. Il y a une souscription nationale qui est censée être lancée. Sera-t-elle finalement nécessaire pour rebâtir Notre-Dame? Peut-être que les promesses de dons qui sont déjà enregistrées vont suffire. Jean-Paul Siré, pour avoir quand même aussi un ordre d'idée des chiffres qui sont communiqués. Donc actuellement, 700 millions de promesses de dons, c'est plus du double du budget qui est consacré par le ministère de la Culture au patrimoine chaque année, qui est 326 millions dans le dernier budget.
Tout à fait, c'est le double du budget de l'État, sachant que dans les restaurations du patrimoine, il n'y a pas que ce budget, puisque les collectivités locales, qui sont les gros propriétaires de monuments historiques, beaucoup plus que l'État, fournissent une bonne part aussi de ce budget. C'est toujours très difficile à estimer, mais on peut estimer que avec ce que mettent les collectivités locales, ce budget double au minimum. Mais c'est vrai que 700 millions d'un coup, c'est beaucoup, c'est surprenant. Alors, moi, je voudrais pas faire le rabat-joie, mais ces 700 millions, ils sont quand même très concentrés sur quelques grands groupes et quelques grandes familles pour l'instant.
Qui se font une petite compétition, hein, voilà, famille Pinault, famille Arnault, famille
Bettencourt. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que de leur part, c'est vraiment des dons? Et à ce moment-là, c'est notable et intéressant. Ou bien est-ce que l'argent qu'ils vont apporter vont bénéficier de la loi de Jean-Jacques Ayagon sur le mécénat, c'est-à-dire qu'ils en récupéreront une partie en crédit d'impôt. Et à ce moment-là, ce qu'ils donneront réellement est un peu moins, et beaucoup moins même, que ce qui est annoncé.
Alors le fait est, Jean-Jacques Ayagon, que la loi qui porte votre nom, puisque vous en êtes l'initiateur, loi de 2003, permet des réductions importantes d'impôts. Dans le cadre du mécénat, c'est 66% pour les particuliers, c'est 60% pour les entreprises, ce qui est déjà énorme. Et alors vous, aujourd'hui, notamment vous êtes exprimé sur le réseau Twitter, vous préconisez le fait que Notre-Dame soit classée trésor national, ce qui permettrait aux généreux donateurs d'obtenir une réduction d'impôt de 90%, c'est bien ça ?
Oui. Tout d'abord, je tiens à rappeler à Jean-Paul Siré que la loi de 2003, la loi sur le mécénat et les fondations, n'est pas une loi qui organise des cadeaux fiscaux à qui que ce soit. C'est une loi qui organise la participation de chacun des particuliers, des contribuables et des entreprises à des causes d'intérêt général. Quand l'État fait une remise d'impôt, il ne fait pas un cadeau à celui qui a fait un don, mais il lui reconnaît tout simplement la capacité adulte, la capacité démocratique, la capacité responsable de prendre en charge, avec le soutien de l'État, une part de l'intérêt général. La loi de 2003 affirme, je sais bien que ça ne plaît pas à tout le monde, que l'État n'est pas le seul garant, n'est pas le seul arbitre de l'intérêt général, que chacun d'entre nous, que chaque citoyen, que les associations, les fondations, les entreprises également, peuvent avoir suffisamment de discernement pour voir où est l'intérêt général. Et à ce moment-là, l'État les accompagne dans leurs engagements et prend, par le biais de la réduction d'impôt, sa part du fardeau. Il accepte qu'une part de l'impôt qui lui est due soit directement mise en œuvre, soit directement disposée par ceux qui le payent.
Mais ce que permet justement cette loi, c'est déjà beaucoup. Pourquoi préconiser des réductions d'impôts encore plus importantes en classant Notre-Dame trésor national, ce qui permettrait donc d'obtenir des réductions à hauteur de 90%, ce qui revient à subventionner en fait les dons, non, Jean-Jacques Ayagon?
Écoutez, cette disposition, elle existe déjà, elle est comprise, elle a été une première fois instituée par la loi Musée de 2002. C'est Catherine Tasca qui était ministre de la Culture à ce moment-là, et je l'ai amplifié par les dispositions de la loi de mécénat de l'année suivante, de 2003. Cette disposition concernant les trésors nationaux ou les œuvres d'intérêt patrimonial majeur permet aux entreprises qui concourent à l'acquisition d'œuvres majeures pour les collections publiques, les musées, les bibliothèques nationales, des œuvres qui ont été décrétées comme trésor national par une commission composée de représentants du ministère de la Culture et du ministère du Budget, de bénéficier d'une réduction d'impôt de 90%. C'est grâce à cette disposition qu'au cours des dernières années, le musée du Louvre, le musée d'Orsay, le musée national d'art moderne, la Bibliothèque nationale de France, le château de Versailles, ont pu acquérir des œuvres qui étaient hors la portée de leur budget propre.
Alors on verra bien, Jean-Jacques Ayagon, justement, si cette proposition, elle reçoit un certain écho.
J'estime que si la loi a institué cette possibilité pour des œuvres mobilières, pour des tableaux, des sculptures, des manuscrits, des fonds d'archives, il n'y a pas de raison que pour un monument aussi insigne et si durement blessé que Notre-Dame de Paris, on ne puisse pas mettre en œuvre une mesure identique. Mais je suis bien conscient du fait que dans le contexte actuel, ça n'a aucune chance d'aboutir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut penser plutôt à des mesures qui rassemblent les gens plutôt tu as des mesures qui les divisent.
D'autant qu'on voit bien, Jean-Jacques Ayagon, que justement, la collecte de dons, la solidarité qui est en train de s'organiser autour de Notre-Dame sera peut-être suffisante justement pour rebâtir cette cathédrale. Olivier de Rohan-Chabot, vous qui, à travers votre fondation, la sauvegarde de l'art français, vous occupez de bâtiments, d'églises qui sont plus modestes au regard de ce que représente Notre-Dame de Paris. C'est quelque chose qui doit vous faire envie, non?
Si vous me permettez, je voudrais faire deux petites remarques sur ce que vient de dire Jean-Jacques Ayagon. Je pense que nous devons lui être extrêmement redevables des lois que nous lui devons, parce qu'elles ont permis d'enrichir Versailles, en particulier d'une façon remarquable, et que notre patrimoine lui doit énormément. Bon, ça, je tiens à le remercier.
Alors ça, c'est fait.
Ma deuxième observation, c'est que une loi, encore une fois également, qui permet de récupérer 700 millions en quelques heures, a vraiment du bon. Mais la troisième, c'est ceci. J'étais personnellement assez choqué, avant que la cathédrale ne brûle, que l'on soit allé demander de l'argent aux Américains pour la restaurer. Lorsque l'on a un bâtiment de l'importance de Notre-Dame de Paris, qui est quand même un bâtiment national par excellence, qui fait vivre Paris aussi, parce que 12 millions de visiteurs, c'est quand même pas rien, et plus encore, je crois, que nous soyons à faire la quête à l'étranger pour cela, alors là, ça me choque horriblement.
Jean-Paul Siret, ces sommes-là qui sont mobilisées aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de les mobiliser?
Bien sûr que si, qu'il a les moyens. Alors moi, je dirais que le gros avantage de la loi sur le mécénat, c'est que ça oblige l'État, Bercy, à consacrer une partie des impôts à des choses qu'il ne ferait pas naturellement. Voilà. Donc c'est effectivement... c'est pas vrai un cadeau fiscal, c'est Jean-Jacques Ayagon a raison, c'est un impôt auto-destiné, c'est-à-dire je décide qu'une partie de mes impôts sera consacrée à telle cause plutôt qu'à quelle autre en faisant un don au titre du mécénat. Et ça, effectivement, si on n'avait pas cette loi-là, ces sommes-là, Bercy ne les aurait pas versées dans le budget de la culture, c'est très clair. Ça, c'est le gros avantage.
Est-ce que ça pose pas un autre problème, Jean-Paul Siret?
Ça reste quand même de l'argent public.
Oui,
pour moi, c'est une erreur de langage de dire que le mécénat, c'est totalement de l'argent privé.
Justement, Jean-Paul Siret,
de l'argent public.
Est-ce que ça ne pose pas à notre problème, du coup, derrière? C'est-à-dire, vous dites, certes, ça pousse Bercy à octroyer ses financements de manière indirecte, sinon ça n'irait pas, mais est-ce que ça ne dépossède pas l'État, les pouvoirs publics et le ministère de la Culture d'une partie de la politique culturelle, c'est-à-dire en permettant à des donateurs privés de choisir vers quel bâtiment, vers quel monument vont aller leur aide. Aujourd'hui, ça va massivement vers la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais il y a d'autres monuments et d'autres chefs-d'œuvre qui sont en péril, qui vont peut-être en pâtir d'ailleurs, je ne sais pas.
Alors, ce qu'il faudrait, c'est que justement la concentration du mécénat sur les grandes causes, sur les grands monuments, parce que c'est à ça qu'on n'aurait jamais eu, si ça avait été une église de village, même très remarquable, exceptionnelle, on n'aurait jamais eu cet afflux de dons. Donc il y a une concentration du mécénat pour les grandes expositions, c'est pareil. C'est plus facile de trouver du mécénat pour faire une exposition au Louvre ou à Orsay ou au Grand Palais que dans un musée de province, c'est bien évident. Donc il y a concentration de l'intérêt, mais du coup, le rôle de l'État devrait être justement de compenser et de flécher davantage ses propres budgets vers ceux qui n'attirent pas les lumières.
Olivier de Rohan-Chabot.
Deux observations là-dessus. La première, c'est que tout ce qui permet aux citoyens de s'impliquer dans les affaires qui le concernent me paraît une bonne chose. Je veux dire qu'il y a eu un petit peu une dérive en France où il y a les sachants qui savent où mettre l'argent et les non-sachants qui n'ont qu'à se taire. Quand on est mécène, on a son mot à dire sur ce que l'on fait de son argent. Et ça, je crois que c'est une excellente chose. Je souhaiterais que chaque Français se sente propriétaire de son pays. La deuxième chose, c'est que...
Je ne sais pas si vous ne retrouvez pas la deuxième chose, mais moi, en tout cas, j'ai une question à vous poser pour poursuivre, Olivier de Rohan-Chabot. Est-ce que vous ne craignez pas, mais c'est peut-être une crainte qui est totalement injustifiée, que cette concentration massive de dons, de financement pour Notre-Dame de Paris, qui sont sans doute justifiés et qui sont les bienvenus pour pour restaurer ce bâtiment, mais que ça ne se fasse peut-être au détriment d'autres chantiers patrimoniaux.
L'argent a toujours été à l'argent. C'est la loi du monde et je ne le changerai pas. Mais il n'empêche que les pauvres en ont besoin aussi de l'argent et que donc nos petites églises rurales auxquelles je m'intéresse tout particulièrement, enfin, nous intéressons tout particulièrement, effectivement, auraient besoin de mécènes. Ça, c'est plus difficile à trouver, c'est vrai.
Jean-Jacques Ayagon, sur ce qui vient d'être dit.
Je crois que Jean-Paul Siré a parfaitement raison. C'est en se libérant de charges trop lourdes sur les grands monuments qui bénéficie assez facilement de mécénat, que l'État doit reconquérir de la capacité à être plus présent sur les petits chantiers, sur les petits monuments, sur les monuments moins en vue, moins connus. Le mécénat vient globalement abonder les moyens du patrimoine et permet ainsi à l'État de se porter avec plus d'aisance vers des sujets qui relèvent plus étroitement de ses missions de service public. Je crois qu'il faut avoir une vision globale des choses. Il en est de même d'ailleurs pour les expositions que vous évoquiez également, Jean-Paul. Certes, on le sait, des grandes expositions, les expositions plus en vue attirent plus facilement des partenaires que des expositions plus audacieuses, plus expérimentales, moins faciles à réaliser. Mais c'est vers ces expositions-là que les établissements publics, et qu'à travers eux le ministère de la Culture, doit porter une plus grande partie de son attention. Le mécénat n'est pas là pour se substituer à l'État, il est là pour accompagner des projets privés, des projets publics, des projets dans tous les cas utiles à la collectivité. Mais je tiens aussi à vous rappeler que la loi de 2003 n'est pas une loi sur le mécénat culturel, c'est une loi sur le mécénat en général, quelles que soient les causes d'intérêt général qu'il soutient. C'est donc une loi qui a également été utile au sport, à l'éducation, à la recherche médicale, à la coopération internationale, à la philanthropie. Quand on critique la loi de 2003 ou ses conséquences que certains jugent excessives, on oublie qu'on ne vit souvent que la culture, comme si la culture était le seul bénéficiaire des dispositions de cette loi, alors que la culture n'en est qu'un bénéficiaire tout à fait accessoire.
Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Paul Siré, en tout cas, on assiste à une place de plus en plus importante du financement privé dans le financement du patrimoine, qu'il s'agisse de l'entretien ou de la restauration des bâtiments ?
Ça augmente, c'est sûr, mais je pense que ça reste modeste encore. C'est-à-dire que l'essentiel des financements sont des financements soit des collectivités, soit de l'État. Et la part du mécénat dans le patrimoine, en tout cas, il est très concentré sur quelques monuments emblématiques et dans des mesures jusqu'à présent. Enfin, c'est la première fois avec l'affaire Notre-Dame qu'on assiste à cette explosion de fonds d'une certaine façon. Autant qu'ils m'en souviennent sur le château de Lunéville, on avait eu quand même beaucoup plus de mal à trouver de l'argent de mécénat, et qui était bon, un château de l'Est que connaît bien Jean-Jacques Ayagon, et sur lesquels la toiture était partie en flammes dans les mêmes conditions, hein, enfin on ne sait pas trop lesquelles, mais en tout cas accidentelles, et la recherche de mécénat avait été beaucoup plus difficile, parce qu'il n'y avait pas la notoriété de Notre-Dame. Donc le mécénat, oui, c'est utile là où les mécènes ont envie d'aller, c'est-à-dire là où il y a de la visibilité. Et ailleurs, il faut que l'État, les collectivités jouent leur rôle, ce qu'elles font pour l'instant imparfaitement, faute de moyens quand même.
Les églises dont vous vous occupez, Olivier de Rohan-Chabot, à travers votre fondation La Sauvegarde de l'Art Français, elles ne manquent pas de financement aujourd'hui ? Vous avez suffisamment pour les rénover, pour les restaurer ?
Elles manquent cruellement de financement. Elles sont en grave danger. Et le fait de ne pas en parler n'est pas ça qui résoudra le problème. Au contraire. Non mais aujourd'hui, ceci étant, pourquoi est-ce que ces églises quand même tiennent le coup ? C'est parce qu'elles sont très aimées. Et l'affection que leur portent les populations qui vivent autour fait pression sur les pouvoirs publics. S'il n'y avait pas cette pression politique qui permet que des conseils départementaux donnent beaucoup d'argent, même quelquefois des conseils régionaux, et que des mairies fassent de très gros efforts. Mais il faut bien reconnaître qu'elles sont propriétaires, les mairies. Donc, je veux dire, elles ont choisi d'être propriétaires, elles ont retiré ces églises à l'église catholique. Bon, maintenant, elles sont propriétaires, il leur appartient de les entretenir. Mais, encore une fois, cet entretien ne peut se faire que par le concours de tous. Conseils départementaux, régionaux, conseils généraux, DRAC, quand elles sont classées ou inscrites, DETR, le ministère de l'Intérieur, et enfin, ceux qui les aiment et qui veulent aider en faisant des souscriptions. Mais pour ce qui est des souscriptions, je me souviens, parce que je suis plus vieux que vous, de la souscription qui a été faite pour Versailles au temps de M. André Cornu, qui était secrétaire d'État aux Beaux-Arts, ce beau titre. Et ça avait permis de gagner énormément, enfin de faire venir énormément d'argent. Et de France et pas des États-Unis, contrairement à ce qu'on croit.
Il y a une cathédrale à Nanterre, Jean-Paul Siré, où vous êtes adjoint au maire. Enfin, cathédrale qui est pas reconnue, c'est ça, comme
c'est
cathédrale.
C'est pas une cathédrale loi 1905. Donc, c'est une église qui est devenue cathédrale quand le département des Hauts-de-Seine a été créé et que Nanterre en est devenue la préfecture. Voilà.
C'est un quoi en termes de financement, et quelle est la part de vos administrés, disons, dans l'amour qu'ils peuvent porter, pour reprendre les termes d'Olivier de Roman-Chabot, dans l'entretien de ce bâtiment?
Dieu merci, c'est une église relativement récente, jaune, donc en bon état, sur lesquels beaucoup de travaux ont été faits déjà et sur lesquels on n'a pas de gros. Il y a eu très récemment des travaux plutôt portant sur les œuvres d'art, sur les fresques, sur les restaurations des fresques, et c'est financé comme c'est classé, en 50% par l'État, des aides du département, et la ville met quand même là-dessus au minimum 30%, quoi, voilà. Alors dans une ville importante comme Nanterre, c'est des choses qui sont envisageables, mais ça n'existe pas que pour ça. On est en train à Nanterre de rénover le théâtre des Amandiers. C'est un théâtre tout à fait emblématique de la décentralisation culturelle et autres. C'est un budget de 37 millions d'euros, donc rien à voir avec Notre-Dame, sur lequel la ville met quand même 11 millions d'euros, l'État 10 millions seulement, alors qu'il s'agit d'un centre dramatique national, le département 10 millions et la région 6 millions. Donc, vous voyez, on partage les choses, mais c'est quand même des grosses charges, voilà.
Jean-Jacques Ayagon, dans son livre « Économie du patrimoine culturel », Françoise Benhamou, qui est une des spécialistes justement de ces questions économiques consacrées à la culture, rappelle qu'en 2008, vous aviez proposé de taxer le chiffre d'affaires de la Française des Jeux à hauteur de 0,5 ou 1% et d'affecter les sommes récoltées à la restauration du patrimoine. Quelle réaction avait provoqué cette proposition, et pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait ?
La réaction a été négative, donc la démarche a été infructueuse, mais finalement l'idée a germé. Il aura fallu attendre l'année dernière, ou il y a 2 ans, hein, pour qu'on voit enfin la Française des Jeux concourir également à la restauration du patrimoine protégé, hein, puisque l'institution d'un loto sur le patrimoine était une forme de réponse apportée à cette question de la participation, comme c'est le cas dans d'autres pays, au Royaume-Uni par exemple, de la loterie, ce qu'on appelle la loterie dans certains pays, à la conservation du patrimoine.
Ce loto du patrimoine, Jean-Paul Siré, ça fait l'objet d'une note pour la Fondation Jean Jaurès que vous avez signée. Loto du patrimoine, une fausse bonne idée. Pourquoi est-ce que c'était, selon vous, une fausse bonne idée? C'était en mai 2018. Depuis, il y a eu le tirage. Il y a eu 22 millions d'euros qui ont été récoltés. L'État est censé abonder au même niveau. Il va y en avoir un autre après. Est-ce que vous êtes un peu plus indulgent, disons, depuis, à l'égard de ce loto?
J'étais pas extrêmement critique. Je pensais que c'était beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Mais c'est un gros avantage. Ça a été une formidable opération de communication en faveur du patrimoine, et notamment du patrimoine de proximité. Et ça, c'est bien. Voilà, on en a parlé. Dès qu'on en parle, ça réveille les gens, ça leur fait prendre conscience des choses, y compris des décideurs. Donc ça, c'est une très bonne chose. En revanche, c'est pas la Française des Jeux qui a participé. C'est sur la part de l'État, c'est-à-dire c'est sur la taxe que percevait l'État sur les jeux de la Française du Loto, qu'une partie a été mise au patrimoine. Donc on en revient au débat qu'on avait tout à l'heure. C'est de l'argent public, de nouveau. Directement, on force la main, et d'ailleurs Françoise Nyssen avait dit à l'époque qu'elle avait dû tordre le bras de Bercy pour faire avancer l'affaire, avec l'aide du président de la République, je présume. Mais donc c'est bien de l'argent public, on oblige finalement Bercy à mettre de l'argent là où il ne voulait pas. Mais c'est de l'argent public.
C'est pas exactement ce qu'on appelle la théorie du ruissellement, Olivier de Roman-Chabot. Je vous voyais en tout cas réagir à la question du loto du patrimoine. C'est quelque chose qui pour vous a été et est utile?
Je rejoins ce que vient de dire M. Siret, c'est une très bonne chose. Et encore une fois, tout ce qui affectionne les Français à leur patrimoine est une chose heureuse. Non, je voudrais dire, si vous me permettez, deux mots sur l'entretien. Ce qui est arrivé à Notre-Dame le montre peut-être. Nous n'entretenons pas notre patrimoine. Le restaurer est une chose, l'entretenir en est une autre.
L'entretenir, ça éviterait d'avoir à trop restaurer ?
Évidemment. Évidemment, on pourrait prolonger de 30 ans la nécessité d'intervenir pour des restaurations.
Et ça coûterait moins cher ?
Certainement, certainement. Mais ça, nulle part n'est prévu un programme d'entretien. Nulle part.
Ça veut dire qu'on réagit trop tard ? C'est-à-dire on est dans la restauration, c'est déjà un peu trop tard ?
Si vous voulez, si je prends une église rurale, on attend que toutes les tuiles soient tombées pour refaire tout le toit. Mais jamais on ira remettre une tuile quand elle manque. Parce que ça coûte cher, parce que, pour mille raisons que je n'énumérerai pas ici. Mais le défaut d'entretien, tout le monde est unanime pour le dénoncer.
Jean-Jacques Ayagon ?
Non, mais c'est exact. Vous savez, les collectivités publiques, l'État, les collectivités locales sont en général bons maîtres d'ouvrage. Ils savent admirablement mettre en œuvre des campagnes de travaux lourds. Mais en revanche, ils sont très mauvais propriétaires, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas entretenir. Et très souvent, la dégradation des monuments est la conséquence pure et simple de trop de négligence et de trop longue négligence.
Je mettrais une petite nuance, c'est que la restauration, c'est de l'investissement et que l'entretien, c'est du fonctionnement et que c'est beaucoup plus facile de trouver des budgets d'investissement et d'avoir des aides à l'investissement que au fonctionnement. Et c'est pour ça qu'on a tendance à dire, ça tiendra bien encore un an, ça tiendra bien encore deux ans. Et puis, si après, la toiture vole, ça redevient de l'investissement et on aura des aides pour le faire. Donc, c'est cette affaire-là qu'il faut prendre en compte. C'est dans la technique budgétaire, elle est dissuasive face à l'entretien, malheureusement.
Les rapports avec... Oui, Jean-Jacques Ayagon, les rapports avec Bercy quand vous étiez ministre de la Culture, c'était des rapports qui étaient compliqués de ce point de vue, justement, sur la question du patrimoine.
Rapport avec qui ?
Avec Bercy.
Écoutez, moi j'ai eu la chance d'avoir comme collègue Alain Lambert, qui pour moi était un partenaire vraiment très, très, très attentif. C'est avec lui que j'ai bâti la loi sur le mécénat, le projet de loi sur le mécénat, Vous doutez bien qu'un ministre de la Culture, sans l'appui du ministre du Budget, n'aurait pas pu mettre en œuvre autant de dispositions à caractère fiscal dans un projet de loi. Alain Lambert était un homme attentif au patrimoine, qu'il connaissait bien, nous avions plutôt de bonnes relations, donc la relation était aisée et facile.
Olivier de Rohan-Chabot, on est presque au terme de cette discussion. Est-ce que parmi toutes les églises dont vous vous occupez, il y en a une qui vous semble particulièrement, je ne vais pas dire remarquable, parce qu'elles le sont toutes, j'imagine, c'est ce que vous allez me répondre, mais en tout cas, il y en a une qui mériterait un intérêt particulier aujourd'hui de tous ceux qui sont en mesure justement de financer la sauvegarde du patrimoine français, que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les mécènes, que ce soit les simples citoyens.
De demander à des parents de dire quels sont leurs enfants préférés est une question cruelle et à laquelle il est impossible de répondre.
Certains parents peuvent le faire.
Oui, mais ils ont tort. je pense. Les besoins sont innombrables. Il est certain que quelquefois, lorsque l'on trouve une municipalité, une très belle église d'abord, un très beau monument, une municipalité passionnée, une association impliquée, et on a envie d'aider ceux qui étoient le ciel. Ça, c'est certain.
Par rapport à ce que vous disiez en tout cas tout à l'heure sur ce défaut d'entretien qui peut conduire à des travaux de restauration qui sont plus importants et finalement plus coûteux que si on faisait du simple entretien, est-ce qu'il y a aussi la crainte peut-être, Olivier de Rohan-Chabot, qu'il y ait certains monuments qui, à un moment donné, connaissent le même genre d'incident ou de grave incident comme a pu le connaître Notre-Dame de Paris ?
Les exemples sont hélas nombreux, mais je souscris tout à fait à ce qu'a dit M. Siret sur la raison pour laquelle, effectivement, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais pour laquelle il y a un manque d'entretien. Ça, c'est certain que cette question...
Jean-Paul Siret.
Administrative et...
Oui. Le paradoxe, c'est qu'on parle de tout ça sur le cas de Notre-Dame, qui n'est pas lié à un défaut d'entretien, puisqu'on commençait une grosse campagne de travaux, qu'il n'y avait pas d'électricité dans les combles, et que c'est pas parce que la toiture était en mauvais état que le feu a pris. On n'en sait pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'est peu probable. Voilà. Ça permet, cet incident dramatique permet de poser des problèmes de fond, qu'il faudra régler. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème quand même de financement des monuments historiques, de financement de notre patrimoine en France, et qu'il y a des solutions autres que le loto pour s'en sortir. Voilà.
Et juste d'un mot, est-ce que vous savez s'il y a une somme plus importante que nécessaire pour la restauration de Notre-Dame, cette somme pourra être affectée à d'autres... Est-ce que techniquement, d'un point de vue budgétaire, est-ce que vous savez
c'est sûrement possible, sauf que les mécènes, ils donnent de l'argent pour une opération donnée et pas forcément pour une autre. Voilà. C'est à eux de dire.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Jean-Paul Siré, Jean-Jacques Ayagon et Olivier de Rohan-Chabot. Discussion que vous pourrez retrouver comme tous les soirs sur notre site internet France Culture à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. Fanny Richet, Jean-Christophe Brionchon, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Cyril Marchand. Émission réalisée par Émilie Valla avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. Dans un instant, ce sera la dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Oui, une dispute musicale ce soir. On a un peu changé d'ambiance. La question du Grain à Moudre, demain.
Grand débat, Emmanuel Macron a-t-il trouvé son modèle? Il ne s'est certes pas encore exprimé officiellement sur les préconisations qu'il va faire, mais ça commence à fuiter dans la presse. Il en sera sans doute question dans les prochains journaux de France Culture.
Bah écoutez, nous serons évidemment à l'écoute et des journaux et du Grain à Moudre. Évidemment demain, mais comme il est 19h, on va retrouver Stanislas Vazak pour les titres de l'actualité.